Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et aujourd'hui, nous allons terminer le voyage que nous avions entrepris au fil des siècles pour évoquer cette extraordinaire école française d'orgue que nous avons débuté sous le règne du roi Soleil et que nous allons aujourd'hui terminer au XXe siècle, un siècle où l'orgue cesse d'être seulement un instrument liturgique pour devenir aussi un lieu d'exploration spirituelle, poétique et, vous allez l'entendre parfois, visionnaire. Alors pour cela, nous allons suivre trois figures majeures. Ça a été très difficile pour moi de les départager tant j'aime ce siècle musical. Alors j'ai sélectionné pour vous trois grandes figures. Charles Tournemire en premier lieu, puis ensuite Jean Alain et enfin Olivier Messiaen. Et d'évoquer au passage un maître dont l'influence irrigue toute cette époque, Marcel Dupré. Alors, je vais vous présenter trois univers très différents, trois manières d'écouter la tradition, mais un même désir d'élargir l'espace intérieur, vous allez l'entendre. On va commencer avec Charles Tournemire, qui est d'abord l'héritier de César Franck, vous savez, cet extraordinaire organiste dont je vous avais parlé la semaine dernière. Il lui succède à la tribune mythique de Sainte-Clotilde, là aussi un très très bel orgue signé Aristide Cavaillé-Coll, facteur d'orgue dont je vous avais également parlé. Il en prolonge la tradition, Charles Tournemire, mais il va également lui donner une orientation totalement nouvelle à cette musique à Sainte-Clotilde. Alors il est connu spécialement pour deux choses. D'une part, ses talents d'improvisateur, il paraît qu'il improvisait absolument formidablement, et également son œuvre monumentale, l'orgue mystique, qui est encore aujourd'hui sans équivalent. Il a écrit 51 offices couvrant toute l'année liturgique. Imaginez le travail de titan. Et chaque office s'appuie directement sur le chant grégorien, mais de manière très particulière. Alors en effet, chez Tournemire, le grégorien n'est pas un simple matériau à harmoniser, si j'ose dire. Alors il faut savoir qu'à l'orgue, harmoniser le grégorien, c'est extrêmement difficile. Donc il n'en fait pas seulement une harmonisation, il l'utilise comme une véritable source. Il l'écoute, il le laisse résonner, et finalement il en déploie la couleur modale et la fluidité. Sa musique semble parfois improvisée, ça rejoint ce que je vous disais sur ses talents d'improvisateur. Et en fait, cette musique, qui est bel et bien écrite, sonne comme une respiration élargie de la liturgie, c'est ce qui donne son aspect totalement magique. Alors cette sensibilité au grégorien marquera beaucoup de compositeurs français du siècle, parmi eux Maurice Durufflet, dont je parle un petit peu parce qu'il a fait un travail sur le chant liturgique 25 ans plus tard, qui lui sera beaucoup plus structuré, beaucoup plus rigoureux, presque archéologique. Mais à leur manière, Tournemire et Durufflet partagent la même intuition que le grégorien est un lieu de lumière intérieure, un socle sur lequel l'orgue peut devenir un véritable chant spirituel. Alors pour illustrer mes propos, je vous propose d'écouter un premier extrait musical. Il s'agit du premier morceau, l'entrée de la messe du Samedi Saint. C'est interprété par M. Delvalle.
Thank you.
Vous l'entendez parfaitement ici, le nom de l'œuvre de Charles Tournemire, l'orgue mystique, prend ici tout son sens. Vous entendez cette musicalité si planante qui semble improvisée, ce pont entre le ciel et la terre, en même temps avec le grégorien en filigrane qui tient lieu d'architecture sonore qui est absolument extraordinaire. Une très très belle musique. Naturellement, si vous avez du temps, je vous invite à écouter les 51 offices de l'orgue mystique de Charles Tournemire, de la très très belle musique. Alors avant de poursuivre notre voyage, il faut quand même dire un mot sur le patron, le grand maître, Marcel Dupré, car son influence tient presque de l'architecture. C'est lui qui tient l'édifice. C'est un virtuose absolument prodigieux, un improvisateur phénoménal, compositeur, pédagogue et titulaire à Saint-Sulpice. Dupré a formé une génération entière d'organistes, Jean Alain, Maurice Duruflet, Olivier Messiaen, que des gens dont vous allez entendre parler aujourd'hui, et bien d'autres encore naturellement. Son enseignement, son exigence technique et sa vision de l'orgue comme instrument total ont façonné l'école française du XXe siècle. Tous, d'une manière ou d'une autre, se situent par rapport à lui, parfois en continuité, parfois en rupture, mais toujours dans son sillage. Voilà, je voulais lui rendre un hommage parce que, bien sûr, c'est un compositeur absolument extraordinaire. J'aurais pu vous en parler, j'aurais pu vous présenter sa musique, mais il a fallu arbitrer et faire des choix. Je vous invite à découvrir certaines de ses œuvres, notamment, je pense à son cortège et ses litanies, et également toute sa vie du Christ. Alors maintenant, nous allons parler de Jean Alain, le météore poétique. C'est justement un des élèves de Dupré. C'est un météore, je vous le disais, une vie de 29 ans à peine, une œuvre brève, mais une voix absolument unique dans la musique du XXe siècle. Sa musique est traversée d'élan, de danse, de rythme, et toute cette musique est empreinte d'une grande liberté. Il y a chez lui un goût pour l'Orient, avec des couleurs étranges, avec des ostinatos qui tournent comme des spirales. Rien de lourd, rien de massif, sa musique respire, scintille, s'envole, vous allez l'entendre. Alors, il faut également faire une mention à sa sœur, Marie-Claire Alain, qui a consacré sa vie à faire connaître l'œuvre de Jean. Sans elle, beaucoup de ses pages seraient restées confidentielles. Alors, parmi les œuvres de Jean Alain les plus célèbres, il y a naturellement ses litanies, qui est une de ses œuvres les plus fulgurantes. Aujourd'hui encore, ça fait partie des incontournables dans les concerts. Et il y a cette petite citation, « Quand l'âme ne trouve plus de mots pour implorer, disait-il, elle répète la même invocation. » Et c'est ce que nous pouvons retenir dans ces litanies, c'est-à-dire un espèce d'ostinato musical qui revient encore et encore avec des rythmes déstructurés, mais en même temps si allant. Écoutez donc les litanies de Jean Alain sous les doigts de sa sœur Marie-Claire. joie, la jubilation, l'exubérance, la luxuriance du météore Jean-Alain dans ses litanies sous les doigts de sa sœur Marie-Claire, une musique incroyable qui aujourd'hui encore parle à tous les organistes du monde. C'est une façon synthétique de jouer, de composer. On dirait un jaillissement spontané, comme si, là encore, l'organiste voulait improviser, se laisser guider par sa joie et la jubilation de l'orgue qui sert cette musique-là. Je trouve que c'est une des plus belles pages du XXe siècle et nombre d'organistes sont d'accord avec moi. Et elle résume cette synthèse entre improvisation et musique écrite, je vous en parlais, avec Tournemire. Mais il y a également toute une tradition derrière, vous l'avez maintenant compris, puisque depuis le XVIIe siècle, l'orgue français est si caractéristique. Alors, d'une part, entre la musique liturgique d'un côté, où il fallait improviser pour les offices, également composer pour ces mêmes offices, également l'aspect concertant. C'est cette grande synthèse que nous pouvons observer au fil des siècles, et qui a donné libre cours à des musiciens comme Jean-Alain de nous montrer, nous faire entendre cette musique rare, précieuse, qui aujourd'hui encore fait école. Il faut bien entendu évoquer la facture d'orgue, parce que je l'ai dit sur les siècles précédents, l'organiste se sert de son instrument qui est une machine. Donc évidemment, il y a un lien entre l'organiste, le compositeur, et les facteurs d'orgue. Alors, je vous avais parlé des spécificités, des sonorités de l'orgue classique, évidemment de l'orgue romantique et de l'orgue symphonique, avec Aristide Cavaillé-Coll notamment. Le XXe siècle, lui, ne sera pas en reste de grands facteurs d'orgue, et notamment d'innovations techniques qui vont permettre de pouvoir jouer différemment. Alors, je vous avais parlé au XIXe siècle de la machine Barker qui avait permis aux organistes de faire de la musique de manière bien plus virtuose, puisque le clavier devenait bien moins lourd. Eh bien, le XXe siècle, lui aussi, va connaître son lot d'innovations, notamment la transmission pneumatique, qui aujourd'hui est assez décriée, et naturellement la transmission électrique. Avant, vous saviez, vous aviez des tirants de registres qui sont de part et d'autre du clavier et l'organiste devait se pencher, etc., souvent avec des assistants sur le côté si on devait changer les sonorités rapidement. Et ensuite, au fil du temps, eh bien, grâce à la transmission électrique, d'un simple bouton, en fait, vous pouvez changer complètement les sonorités de l'orgue et ça va donner lieu, là aussi, à de grands changements qui vont permettre aux organistes de s'exprimer de manière encore plus fulgurante, abrupte et en même temps spectaculaire. Et ça, naturellement, certains grands compositeurs, je pense notamment à Olivier Messiaen, vont s'en saisir. Alors, évidemment, l'orgue suit les innovations. C'est un instrument incroyablement moderne. D'ailleurs, quand on parle du 19e siècle et d'exposition universelle, à l'orée du 20e siècle, eh bien, l'orgue a toujours été mis au centre. Je pense notamment à l'exposition universelle de Paris, au Palais du Trocadéro, où un orgue Cavaillé-Coll avait été présenté comme une innovation technique, eh bien, au XXe siècle, bien sûr, l'orgue suit son temps avec l'électricité et donne à l'organiste des possibilités multiples, et bien entendu également aux compositions, ce qui nous permet d'entendre ces musiques si diverses, si météoriques, si joyeuses et si contrastées. Alors maintenant, on va parler d'un autre élève de Dupré. Il s'agit de Olivier Messiaen, une figure immense du XXe siècle, probablement le compositeur français le plus célèbre. Il fut compositeur, théologien, pédagogue mythique du Conservatoire de Paris et titulaire pendant plus de 60 ans de l'orgue de la Sainte Trinité à Paris, qui est là aussi un orgue Cavaillé-Coll, on y revient encore. Orgue cependant qu'il a fait évoluer pour obtenir de lui des couleurs sonores qu'il imaginait, parce que vous allez l'entendre, Messiaen, c'est le magicien de la couleur. Alors pourquoi la couleur est si importante chez lui? Eh bien parce qu'il faisait de la couleur une musique. En fait, il avait toute une théorie autour de la synesthésie, c'est-à-dire cette façon de rendre la couleur physique. Et alors lui, étant donné que son matériau c'était la musique, il la rendait physique grâce à divers artifices, notamment ses modes à transposition limitée, ses rythmes non rétrogradables et surtout sa passion pour les oiseaux qui va nous intéresser maintenant. Il les écoute, il les relève, il les transcrit, mais pas par souci d'imitation naturaliste, parce que pour lui, le chant de l'oiseau, c'est une forme de joie pure, une musique qui ne ment pas d'ailleurs. Il disait que les oiseaux étaient les premiers des musiciens. Alors pourquoi est-ce que je vous parle des oiseaux? Non seulement parce qu'il était absolument fanatique de ces animaux, il faut savoir que quand il partait en voyage, il partait toujours avec un petit carnet et il retranscrivait le chant des oiseaux. Alors imaginez l'oreille qu'il faut avoir pour le faire. Alors il l'a fait notamment au piano. Et d'ailleurs, il convient là aussi de saluer Yvonne Loriot, qui a été son élève puis sa femme, et qui a permis de retranscrire l'œuvre de Messiaen au piano. Et c'est pas une chose facile, croyez-moi. Donc cette passion pour les oiseaux, elle est constante hein, dans la vie de Messiaen. Et lui aussi va s'intéresser, je parlais avec Jean-Alain de la musique orientale, également... Messiaen va beaucoup s'interroger sur les rythmes, notamment indiens, cette façon de faire des rythmes que nous n'avons pas l'habitude d'entendre en Occident et qui va donner beaucoup de déstructuration dans sa façon de composer l'orgue. Il faut savoir qu'il allait tellement loin dans ses compositions et également dans son improvisation qu'il avait négocié avec le curé de la Sainte Trinité la messe de midi qui serait la messe des musiciens et qu'on avait bientôt baptisé la messe des fous. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors pourquoi est-ce que je vous parle des oiseaux? C'est pas seulement pour le plaisir de l'anecdote, bien que effectivement ça soit quelque chose d'assez savoureux, mais parce que je vais vous présenter un morceau qui est extrait de la Nativité du Seigneur, on rentre dans le temps de l'Avent, qui est l'un des premiers grands cycles de sa carrière, avec une présence des oiseaux qui est déjà très très forte, et notamment dans le morceau que je vais vous présenter qui s'appelle Les Anges. Ici vous allez entendre des arpèges très rapides et frémissants qui évoquent presque le battement des ailes des anges, le froufrou lumineux qui accompagne la venue du divin. Et vous allez entendre, on se croirait presque dans la jungle avec l'orgue qui fait des petits arpèges extrêmement espiègles et qui viennent nous chercher et on se sent un petit peu perdu au milieu de cette musique tourbillonnante qui nous rappelle le génie de ce compositeur qui est Olivier Messiaen. Alors je vous propose d'écouter le début de la Nativité du Seigneur avec les anges. Alors c'est pas le début, hein, pardon, c'est la sixième pièce je crois de mémoire. Ici c'est Olivier Latric qui l'interprète sur le grand orgue Cavaillé-Coll de Notre-Dame de Paris. Quelle musique extraordinaire! À peine la dernière note entendue, on est déjà dans le souvenir du froufrou des ailes des anges ou bien des oiseaux. Évidemment, quand on pense à Messiaen, l'un et l'autre vont de pair. Cette joie, cette exubérance en même temps qui annonce les débuts de la nativité, on peut imaginer le bonheur des anges de volter autour du nouveau-né. Évidemment, cette façon de jouer devait être spéciale à l'époque, imaginez-vous, au milieu du XXe siècle, avec cette musique-là que vous entendiez à la messe. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire et vous aviez beaucoup d'élèves de la classe du conservatoire de Paris qui venaient écouter le maître improviser ou jouer ses propres œuvres à la tribune de la Trinité à Paris. Voilà, nous avons fait ce fameux tour entre quatre grands noms, Tournemire, Dupré, Alain, Messiaen, quatre mondes distincts, quatre manières de faire parler l'orgue au XXe siècle entre tradition liturgique, poésie intérieure, exigence technique et révélation colorée, l'école française aura façonné un siècle de musique d'orgue d'une richesse incomparable. Et ce sont les mots de la fin sur cette série que nous avons entamée il y a 3 semaines à propos de l'école française d'orgue, entamée au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous l'avez entendu, une tradition ininterrompue d'immenses talents, de marchands jusqu'à Messiaen, de très très grands compositeurs, de très très grands organistes qui ont donné à cette école, à cette façon de faire de la musique, toutes ces lettres, de noblesse, une façon de faire de la musique, de la faire résonner non seulement dans les églises, mais aussi dans les salles de concert, qui est unique et reconnue aujourd'hui encore partout dans le monde. L'école française d'orgue a encore aujourd'hui de beaux jours devant elle. C'est tout le malheur qu'on lui souhaite. D'ici au prochain siècle, peut-être que si on se retrouve dans 100 ans pour discuter de la musique du XXe siècle, en tout cas, je nous le souhaite à tous, eh bien, je serai heureux de vous retrouver pour en parler. D'ici là, ça te laisse un petit laps de temps. Portez-vous bien, je vous retrouve bientôt sur Point d'Orgue. À très bientôt.